Je voulais toujours aller plus loin, faire ce fameux tour du monde. Donc, au bout d'un moment, j'ai pris la décision. Je me suis dit que j'allais mettre un peu tout de côté. J'allais mettre ma carrière de côté. J'allais vraiment parcourir le monde. C'est-à-dire cette idée, ce rêve de gosse de partir un beau matin, sac sur le dos, et puis d'aller dans une seule direction. Et puis, au bout d'un moment, je finirais bien par revenir à mon point de départ. L'idée, elle est venue là parce que je pense que c'était le bon moment dans ma carrière, c'était le bon moment dans ma vie. Je pouvais me permettre de mettre les voiles pendant quelques années. Quand j'ai dû choisir le moyen avec lequel je voulais faire ce tour du monde, la course à pied m'est apparue comme une évidence parce qu'elle était le rythme et la hauteur qui pour moi étaient les plus justes en termes de ce que je voulais attraper, de ce que je voulais pouvoir capter. Quand on passe en vélo à travers des villages, on peut traverser un village à 20-30 km/h sans avoir vu grand-chose finalement. Moi, quand je traverse un village, je vois les gens, je vois les yeux, on peut se faire un sourire, on peut dire bonjour. J'ai l'impression de tout capter beaucoup plus que si j'étais à vélo et de manière beaucoup plus agréable que si je ne faisais que marcher, entre guillemets. Sur mon parcours, je croise beaucoup de gens qui me disent, je parle à beaucoup de gens et ils me disent tous, ah, moi aussi, moi j'ai un rêve de faire ceci, de faire cela. Ils ont tous peur et ils s'arrêtent à la peur qu'ils ont. Au bout d'un moment, quand on fait ce fameux saut dans le vide, c'est grisant, en fait. Moi, c'était très grisant. Je savais absolument pas, moi. Là, j'en suis à plus de 300 marathons maintenant. Mais comment je pouvais regarder quelqu'un dans les yeux en disant « Mais bien sûr, je vais faire 650 marathons. Bien sûr, je le sais, c'est possible. » Ben non, on ne sait pas du tout. Là, même demain, il peut se passer quelque chose. Mais c'est tellement grisant de prendre ce risque, de faire ce petit pas-là et de sauter dans le vide. Et d'y aller en se disant tout ce qui va me maintenir, c'est juste la force de mon désir de faire ce truc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que quoi qu'il arrive, ça marchera.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, notez et rédigez un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Lottet, alias Looty Run, qui va partager avec nous l'incroyable aventure qu'elle est actuellement en train de vivre à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Marie s'est en effet lancée depuis décembre 2019 sur les pas de Phileas Fogg, à la conquête d'un tour du monde en courant, rythmé par un marathon par jour, 6 jours sur 7. Un épisode exceptionnel qui met en lumière ce formidable défi, certes d'un point de vue sportif, mais aussi et surtout dans sa dimension humaine, avec cette volonté chevillée au corps de Marie de partir à la découverte du monde dans toute sa diversité et de s'émerveiller chaque jour des rencontres qu'elle est amenée à faire tout au long du chemin. Forte de ses plus de 340 marathons déjà réalisés dans le cadre de ce tour du monde, Marie partage avec nous dans cet épisode ses motivations profondes, les enseignements et les perspectives que lui offre cette incroyable aventure, ancrée profondément en elle depuis toujours. Une aventure riche d'audace, de sagesse, de partage et d'humanité, à l'image de la personnalité de Marie. Mais je ne vous en dis pas plus. Marie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Globe Runner.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Marie, je suis ravi de te recevoir dans ce 34e épisode de Course Épique. Dans quel pays du globe es-tu à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode?
Eh bien écoute Guillaume, je ne suis pas très loin, je me trouve en Europe encore à l'heure actuelle et je suis en Italie, sur la côte Est.
Quelle chance! Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs?
Tout à fait. Je m'appelle Marie Lottet, j'ai 43 ans. Je suis partie il y a à peu près un an et demi dans une aventure un peu extraordinaire qui consiste à faire le tour du monde en courant, donc je me déplace de ville en ville, de 40 km à peu près, je crois un marathon par jour, en marathon, et j'espère ainsi boucler mon tour du monde d'ici un ou deux ans, voilà. Ça fait un an et demi déjà que je suis sur les routes.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant, puis ado? Quelle place tenait le sport dans ta vie à ce moment-là?
C'était une place très importante. J'ai toujours eu une activité J'ai toujours été un peu hyperactive, on va dire. Donc, le sport était un moyen de canaliser beaucoup l'énergie que j'avais en moi. J'ai beaucoup pratiqué. Un des sports qui a beaucoup marqué mon adolescence, c'était le baseball. Curieusement, Rouen est une ville de tradition de baseball. Il y en a très peu en France. Et c'était un sport très bien, parce que c'était un sport qui était, pour moi, le juste compromis entre le sport individuel et le sport collectif. Ça se joue un peu sur les deux côtés du tableau. Et ça permettait... d'avoir les deux. Moi, ça me plaisait. C'était un équilibre parfait. Et puis, ça permettait d'avoir un bon groupe de copains, de pouvoir s'amuser et puis et en même temps de délivrer un peu cette énergie en moi. Donc, surtout le baseball, oui.
Donc, tu étais une enfant de la balle.
À quel moment la course à pied, elle a plus particulièrement fait éruption dans ta vie? Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur?
Ah, tout à fait, oui. J'étais posté en Grèce avec mon boulot. On était en 2003-2004. Et en fait, c'était l'année des Jeux Olympiques. Et je bossais sur l'avenue de Marathon, donc juste à l'extérieur d'Athènes, et j'ai vu passer le marathon olympique, j'ai vu passer ces gens, ces femmes et ces hommes qui couraient. J'ai trouvé ça assez incroyable de me dire qu'ils partaient de cette petite ville de Marathon qui était pas très loin de mon bureau et qu'ils allaient arriver à Athènes dans moins d'une heure ou une heure à peu près, et je me disais que c'était fou. Et j'ai commencé à courir là, et donc j'avais 25-26 ans. Et puis, juste après avoir commencé, en fait quelques mois, je crois 3 mois après avoir commencé, à courir, je courais des petites distances, hein, 5-6 kilomètres comme ça. J'ai couru mon premier marathon et puis j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme aventure, j'ai trouvé ça superbe. En fait, j'ai refait le même parcours, c'était le marathon d'Athènes, le classique pour les amateurs qui partaient de la ville de Marathon, qui arrivaient à Athènes. Je trouvais ça super, je trouvais ça génial de se dire qu'on pouvait voyager comme ça en courant et puis c'était vraiment un très bon moment.
Tu as vécu dans ton parcours personnel, t'es une citoyenne du monde parce que t'as vécu dans plein de pays, l'Écosse, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la Grèce et plus récemment Singapour. Quel est le pays dans lequel t'as pris le plus de plaisir à courir, si on exclut le tour du monde là que tu as commencé, mais plus globalement dans ton parcours avant, est-ce qu'il y a un pays qui t'en a particulièrement mis plein les yeux dans tes pays de résidence précédents?
Ah, c'est compliqué comme question. C'est très compliqué parce qu'en fait, la course, pour moi, elle est un moyen d'apprécier le monde qui m'entoure. Et en fait, si je parle de l'appréciation de la course à pied, le moment où je l'ai plus apprécié, c'est quand j'avais un boulot où j'étais en 100% voyage. Donc, j'avais plus de maison pendant 2 ans et je passais 3 mois dans chaque pays. Et en fait, la course à pied, tous les matins, avant d'aller au boulot, je sillonnais les rues de ces villes dans lesquelles j'étais, à travers l'Europe, à travers le monde. Ça me permettait de les découvrir. Et pour moi, la course à pied, elle était un moyen, en fait. Je pense pas que j'aimerais la course à pied pour la course à pied. J'aime la course à pied pour ce qu'elle m'apporte et pour ce qu'elle me permet de découvrir. Donc, j'ai envie de vous dire, me rendre dans tous les pays, partout, même quand j'étais au Nigeria, qui pourtant n'est pas un endroit très facile, je me rappelle avoir été particulièrement satisfaite de pouvoir courir et c'était ma porte d'entrée sur ce pays qu'autrement, je n'aurais peut-être probablement pas vu avec les mêmes yeux.
Mais la course à pied a peut-être une saveur particulière malgré tout, puisque on pourrait se dire que tu pourrais découvrir aussi ces territoires et faire ces rencontres en faisant du vélo ou en ayant d'autres moyens de locomotion. Il y a quand même un intérêt et une appétence pour toi spécifique pour la course à pied?
Quand j'ai dû choisir le moyen avec lequel je voulais faire ce tour du monde, la course à pied m'est apparue comme une évidence parce qu'elle était le rythme et la hauteur qui pour moi étaient les plus justes en termes de ce que je voulais attraper, de ce que je voulais pouvoir capter. Quand on passe en vélo à travers des villages, on peut traverser un village à 20-30 km/h sans avoir vu grand-chose, finalement. Moi, quand je traverse un village, je vois les gens, je vois les yeux. On peut se faire un sourire, on peut dire bonjour. Il y a le chien qui peut venir me renifler les mollets et puis je m'abaisse pour lui dire bonjour.
Un bon moyen d'accélérer.
Conversation. Et ce que je veux dire, c'est que je vois, j'ai l'impression de tout capter beaucoup plus que si j'étais à vélo et de manière beaucoup plus agréable que si je ne faisais que marcher, entre guillemets.
Hormis ton tour du monde, que tu vas nous raconter un peu plus en détail dans quelques minutes, est-ce que tu as le souvenir d'une course qui aurait particulièrement marqué ta vie et ton parcours? Tu nous as parlé du marathon en Grèce et à Athènes. Est-ce qu'il y a d'autres courses qui ont joué un rôle particulièrement fondateur pour toi?
Oui, là, donc l'élément déclencheur, c'était probablement ce marathon à Athènes en 2004. Et puis, depuis, en fait, il y en a eu beaucoup, beaucoup de saveurs. Si je vous racontais mes courses au Nigeria, alors qu'on... J'étais dans un contexte où je pouvais pas vraiment sortir de mon compound sans un garde du corps armé. Et j'allais courir toute seule, juste avec mes baskets, mon short et mon t-shirt, sans aucune assistance. Et en fait, le fait de courir, c'est là où j'ai vraiment découvert que le fait de courir, c'est très rassurant parce que on vient en paix, en fait. Il n'y a aucun signe d'agressivité. Et alors que j'étais dans un pays qui était réputé assez dangereux, où il y avait beaucoup d'enlèvements, où il y avait beaucoup de... C'était pas évident d'être blanc et de se balader tout seul. D'ailleurs, personne ne le faisait dans les rues de Lagos. Et bah, d'y aller en courant, je pouvais. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a un message qui est non-verbal dans le fait de courir et qui est tout à fait de non-agressivité, de paix, en fait. Et donc ça, je m'en suis rendu compte au Nigeria. Et après ça, j'ai plus trop eu peur de courir un peu partout dans le monde, hein, où j'étais, que ce soit en Asie, que ce soit en Sibérie, en Russie, ou quel que soit l'endroit du monde.
Donc tu t'autorises plus de liberté finalement, c'est ça? C'est des choses que tu n'aurais pas nécessairement été en mesure de faire à pied, par exemple, dans des environnements un peu plus insécuritaires. Est-ce que justement la course désinhibe complètement ça et te permet de faire des choses que tu n'aurais pas osé faire ne serait-ce qu'en marchant?
Bien sûr, oui, oui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce moyen de locomotion pour faire ce tour du monde. Je pense que c'est une grande ouverture, une grande liberté et qui... Oui, qui m'ouvre des portes tous les jours, en fait. Je trouve que c'est un grand privilège de pouvoir traverser le monde en courant comme je le fais.
C'est l'heure de notre petite pause autodiagnostique, Marie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, en course à pied en tout cas, dans la dimension physique et psychologique de ce que tu as entrepris de manière générale dans ta pratique sportive jusqu'à maintenant? On reviendra plus spécifiquement sur ton tour du monde, mais voilà, quels sont aujourd'hui, tu penses, toi, tes points forts et les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a encore peut-être des choses qui sont plus difficiles pour toi en tout cas et sur lesquelles tu as plus de mal?
Le point fort indéniable, en fait, c'est que je ne me suis pas trompé, c'est que j'ai ce désir qui brûle vraiment, c'est comme une fournaise qui brûle, qui me fait lever le matin, tous les matins, avant le son du réveil matin. D'ailleurs, je n'ai pas entendu le réveil matin une seule fois depuis que je suis parti. Et donc, je ne me suis pas trompé. Et je pense que sans ce désir, sans cet élément essentiel d'être à ma tâche tous les jours, de faire ça, sans ça, je pense que ce serait sûrement une torture, ce serait quelque chose de tout à fait déplaisant.
Donc, tu veux dire par là de la détermination et des capacités psychologiques et un mental à toute épreuve et beaucoup de volonté?
Non, je ne sais pas si les gens me parlent de volonté ou de motivation, mais je ne me reconnais pas du tout dans ces termes-là, en fait. C'est juste quelque chose qui me représente complètement. De me lever tous les matins et d'être dans ce tour du monde et de me dire, il y a 42 kilomètres d'asphalte ou plus devant moi jusqu'à la prochaine ville. Et la prochaine ville, bah, je ne suis jamais allé, je ne connais pas, c'est l'inconnu et je découvre. Tout ça me donne c'est ce désir que j'ai avancé à chaque foulée. Exactement. Donc, ce que je fais est totalement en accord avec moi-même. Et là-dessus, je ne me suis pas trompé. Et je pense que c'est ça le point fort, s'il y en avait vraiment que un à dire, c'est celui-là. Le point de possible amélioration, ben, je m'y suis retrouvé confronté la semaine dernière, justement. C'est savoir quand il est bon de mettre un frein et quand il est bon de faire un peu de demi-tour de temps en temps. Je me suis retrouvé un peu coincé dans une situation un peu compliquée la semaine dernière en traversant l'Italie d'ouest en est. J'ai dû traverser des zones très peu peuplées, c'était des conditions compliquées, il pleuvait, il y avait de la boue, j'ai dû traverser des rivières. Alors, traverser des rivières avec mon équipement, c'est très compliqué. Et puis, j'étais à mi-chemin, grosso modo, hein. J'étais à une vingtaine de kilomètres. Et pour vous donner un exemple, il y a un tronçon de 6 kilomètres qui m'a pris près de 3 heures à parcourir. C'était parce que j'étais collé dans la boue, j'étais embourbé, Et là, j'ai persisté, j'ai continué à avancer en me disant ça finira bien par s'améliorer, ce qui s'est avéré être le cas, mais il aurait peut-être été plus sage, en fait, de faire demi-tour, de revenir à mon point de départ et d'étudier un autre itinéraire. Parce que je pense que je me suis mis en danger une fois ou deux, et je ne sais pas si c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc je pense que ça, c'est un axe d'amélioration, de pouvoir parfois être capable de remettre en cause son itinéraire, son parcours, et puis s'arrêter face au danger naturel, des éléments autour de moi, de l'environnement, et puis de faire machine arrière. Donc ça, je ne suis pas encore très, très calé dans ce domaine-là.
Et si on parle d'un point de vue physique, est-ce que tu considères que tu as des compétences athlétiques qui sont au-dessus de la moyenne, ou est-ce que tu te considères comme une athlète ordinaire? Le terme n'est pas approprié, évidemment, quand on court des marathons tous les jours, mais voilà, est-ce qu'à force de travail et d'entraînement, est-ce que tu considères que tu as réussi à atteindre un niveau et une résistance particulièrement hors du commun?
Hors du commun, non. Puis, de toute façon, je ne pense pas que je peux considérer que ce que je fais est extraordinaire dans la mesure où je le fais tous les jours. Donc, c'est l'ordinaire pour moi. Donc, du coup, ça m'est difficile de penser que je fais quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas une athlète extraordinaire. Enfin, j'ai couru des marathons, j'ai fait du sport toute ma vie, mais j'ai jamais atteint un niveau extraordinaire. Je suis quelqu'un qui aime bien se défendre, se défouler sur les terrains de jeu, qui aime bien courir, mais j'ai jamais eu des performances. Même si on regarde sur des marathons, mon meilleur marathon, j'ai dû le courir en 3h20. Je suis pas une de ces athlètes extraordinaires qui fait du moins de 3h. Oui, c'est pas, je suis une bonne athlète, mais rien d'extraordinaire. Je pense que quand je me suis embarqué dans ce Tour du Monde, ce qui fait que je peux tenir le rythme jour après jour, c'est qu'au contraire, j'ai la sagesse de ne rien pousser. Je pousse jamais aucun des curseurs ni dans le rouge, ni dans le orange. Je reste toujours à un rythme que j'appelle conversationnel, c'est-à-dire que je reste dans le vert et je pousse rien parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait que je cours à une moyenne de 9 km/h, je crois, depuis le début de ce Tour du Monde, et que j'ai aucun intérêt à pousser, à aller plus vite, etc. Le temps n'a pas d'essence dans ce voyage. Donc, je pense que c'est ça. Ce n'est pas des capacités physiques extraordinaires, c'est le détachement complet de toute notion de temps et de vitesse. Je ne regarde absolument pas ces indicateurs quand je suis sur la route.
Merci beaucoup pour cette introduction, Marie. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur toi. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il ?
Je pense très intuitivement à cette petite fille qui s'appelle Mafalda.
Pourtant, tu n'as pas de nœud papillon dans les cheveux quand tu cours.
Non, mais elle est née sous les traits du dessinateur Quino, je crois que c'est Argentina. Non, c'est une petite fille qui est très intéressée dans le monde. Son objet favori, c'est la map monde. Elle est un peu féministe, elle est un peu grande gueule, elle a des idées très tranchées, elle défend la cause comme ça, un peu la cause des femmes, un peu la cause du monde, de la paix dans le monde. Je trouve que c'est une petite fille qui me plaît beaucoup, que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Et donc, j'aimerais bien être Mafalda.
Très bien. Et si tu étais un animal, quel animal serais-tu ?
Alors, mon lien justement au voyage que je suis en train de faire, probablement la tortue qui se déplace lentement mais sûrement avec toute sa maison sur le dos.
Ou dans une poussette, en l'occurrence.
En l'occurrence, oui.
Enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'admiration particulière chez toi ?
Oui, alors il y avait, enfin, maintenant elle est plus trop en activité, je crois. Je sais plus, j'entends plus beaucoup parler. Mais c'était quand j'étais petite, j'admirais beaucoup Catherine d'Estivelle. Catherine d'Estivelle, si ça vous dit quelque chose. Ouais. C'était une, enfin, c'est toujours. Elle était championne du monde de varap, l'escalade, elle faisait des trucs extraordinaires. Moi, ce qui me plaisait, ce qui me fascinait quand je disais des trucs sur elle, c'était, ça donnait une impression de liberté incroyable, en fait. C'est quelqu'un qui avait travaillé dur, enfin, je pense, pas juste du travail, c'était sa passion. Pour acquérir un talent, un truc unique qu'elle savait faire et qui lui procurait une liberté incroyable qui, moi, me faisait juste rêver d'envie. C'était extraordinaire.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie, de t'être prêtée à l'exercice de cette basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course incroyablement épique, à savoir ton tour du monde. Pour présenter en quelques mots ce défi à l'ambition folle, Marie, tu t'es lancée il y a un an et demi dans un tour du monde en courant. Pour réaliser cet exploit, tu as fait le choix de courir un marathon par jour, 6 jours sur 7. Tu as ainsi pris le départ de ton tour du monde un matin de décembre 2019 au Portugal, avec l'objectif initial d'y être de retour 2 ans plus tard, après avoir réalisé 650 marathons, avoir parcouru plus de 26 000 km et traversé 5 continents, l'Europe, un petit crochet en Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avant un nouveau crochet en Afrique, puis un retour final en Europe. C'était en tout cas le plan initialement prévu avant que le Covid ne s'en mêle et ne vienne tout chambouler, mais tu auras l'occasion de nous raconter tout ça un peu plus tard. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, Marie, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Pour cette question qui pique d'aujourd'hui, nous allons bien évidemment évoquer l'une des œuvres les plus célèbres de Jules Verne, « Le Tour du Monde en 80 jours », un livre qui mêle à merveille récits d'aventure et découvertes géographiques du monde. Publié en 1872, le roman raconte l'histoire de Phileas Fogg, un gentleman anglais et de son valet français Passepartout. Fogg est membre du Reform Club, un club privé du centre de Londres. Alors que les membres du club parlent des avancées technologiques récentes, en particulier des nouveaux modes de transport ferroviaire, Fogg évoque un article du Daily Telegraph affirmant qu'avec l'ouverture d'une nouvelle section du chemin de fer en Inde, il est désormais possible de se déplacer à travers le monde en 80 jours seulement. Les autres membres du club sont évidemment sceptiques quant à cette affirmation, mais Fogg insiste sur le fait que ce défi est réalisable en empruntant de nouvelles voies maritimes et des chemins de fer transcontinentaux. Une vive discussion s'engage à propos de cet article. Phileas Fogg parie alors avec ses collègues du Reform Club 20 000 livres, soit la moitié de sa fortune, qu'il réussira à achever ce tour du monde en 80 jours. À l'issue d'un périple semé d'embûches et d'un ultime rebondissement lié à l'accumulation des heures de décalage horaire lors de leur voyage, nos deux héros réussiront bel et bien à boucler leur tour du monde en 80 jours. Voilà en résumé les grandes lignes de ce grand classique et de cet ouvrage majeur de la littérature française que beaucoup d'entre nous connaissons. Voilà ma question qui pique pour toi, Marie. C'est à toi de jouer maintenant. Est-ce que tu penses qu'à l'époque à laquelle Jules Verne a écrit ce livre, quelqu'un avait déjà réalisé en vrai l'exploit de boucler un tour du monde en 80 jours ?
Ah, j'ai toujours pris ça comme une œuvre de fiction. Je suis au courant de pas mal de gens qui ont fait le tour du monde d'une manière ou d'une autre, notamment cette femme incroyable qui l'avait fait, une Slovène. Je suis passée par sa ville natale, elle l'avait fait 100 ans avant moi, elle est partie en 1919.
Incroyable.
Donc, mais je ne sais pas, en 80 jours, je réponds que je ne sais pas. Je ne sais pas.
Eh bien, la réponse est oui. Le premier tour du monde en moins de 80 jours a été réalisé en 1870, soit 2 ans avant le roman de Jules Verne, par le bien nommé homme d'affaires américain George Francis Train, ça ne s'invente pas. Ce personnage hors du commun fut en son temps l'un des grands pionniers des transports rapides sur mer comme sur terre. Il est à l'origine du tramway en Angleterre et du développement du réseau ferroviaire au Far West. Excentrique avant tout, il fut tour à tour royaliste et socialiste, belliciste et pacifique, candidat à la présidence, puis à la dictature des États-Unis, globe-trotteur et écrivain, ça fait quand même un sacré CV. Et un beau matin de juillet 1870, Train entreprit de faire le tour du monde en 80 jours pour démontrer qu'en cette seconde moitié du 19e siècle, il était enfin possible de voyager vite. Il réussit son pari, bien que sur le chemin du retour, il soit pris en France dans la tourmente insurrectionnelle de la Commune. Prétendant avoir aidé des insurgés de Marseille, il est jeté en prison puis libéré grâce à l'intervention de son ami Alexandre Dumas, rien d'autre, et du président des États-Unis. Tu vois, il avait quand même un bon réseau pour l'aider. Et en 1873, il a été écœuré de découvrir que Jules Verne lui avait volé son exploit. Mais le Phileas Fogg du roman Un Anglais flegmatique et pointilleux est bien loin du fougueux Yankee parti par goût de l'aventure et pour la gloire qu'il était. Au total, Train a réussi à faire 4 tours du monde, la 4e fois en seulement 60 jours, donc il a quand même progressé dans les délais de son voyage avec le temps. Et voilà, et avec l'âge, la petite histoire raconte que ses lubies se sont multipliées, il acceptera plus de parler qu'aux enfants, il communiquera par écrit, soi-disant pour économiser ses forces psychiques, et il établira carrément un calendrier fondé sur sa propre date de naissance. Voilà Marie, j'espère que tu vas pas finir ton tour du monde dans le même état et dans la même disposition que notre ami Train. Ce serait en tout cas pas très bon signe, mais je suis sûr que ça n'arrivera pas, tu as la tête bien plus sur les épaules que lui. Voilà pour cette question qui pique, on a tous appris des choses je pense avec cette histoire de notre ami George-Henri Train. Pour nous intéresser plus spécifiquement et en revenir à notre sujet du jour qui est ton tour du monde en courant, est-ce que tu peux nous raconter comment et à quel moment est née cette idée de tour du monde ?
Je pense que je l'ai toujours eu en moi, c'est-à-dire que pour vous montrer à quel point ça remonte loin, quand j'étais en train de terminer mes études, je suis parti en Écosse pour terminer un second master. Et à partir du moment où je suis parti en Écosse, qui était juste un choix d'université, hein, c'était pas forcément un choix de vie, mais c'était mon premier départ de France. Et je savais qu'en partant de France, j'y retournerais pas. Je savais que je voulais. Le but pour moi, ça a toujours été comment parcourir le monde, comment aller partout dans le monde. Alors, je l'ai fait au début via les études, via mes boulots, c'est-à-dire que je cherchais des boulots où j'étais, j'ai trouvé en Écosse, j'ai trouvé en Grèce, en Allemagne, etc. Je parcourais le monde à mon rythme et le but du jeu, c'était de s'installer, d'aller quelque part où j'étais pas évidente, parce que j'étais pas du coin, parce que j'avais pas forcément les codes culturels, j'avais pas forcément le langage même, et puis d'apprendre, et puis de s'installer, et puis d'approprier un peu, de s'approprier, de devenir quelqu'un du coin. C'était ça qui m'excitait énormément. Et je l'ai fait pendant une vingtaine d'années. Et puis alors, ça avance, hein, parce que du coup, c'est fou de se dire, enfin c'est super enrichissant d'avoir apprivoisé autant de lieux sur autant d'années. Et du coup, d'y avoir des amis un peu partout dans le monde et puis de continuer d'avancer. Mais je me suis dit que c'est terriblement lent, finalement, 7 pays en 20 ans ou 6, 7 pays en 20 ans. Et je voulais toujours aller plus loin, faire ce fameux tour du monde. Donc, au bout d'un moment, j'ai pris la décision. Je me suis dit que j'allais mettre un peu tout de côté. J'allais mettre ma carrière de côté. J'allais vraiment parcourir le monde. C'est-à-dire cette idée, ce rêve de gosse de partir un beau matin, sac sur le dos, et puis d'aller dans une seule direction. Et puis, au bout d'un moment, je finirais bien par revenir à mon point de départ. L'idée, elle est venue là parce que je pense que c'était le bon moment dans ma carrière, c'était le bon moment dans ma vie. Je pouvais me permettre de mettre les voiles pendant quelques années, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est jeune. Il faut avoir un peu mis de côté, il faut être capable, il faut avoir aussi la confiance en soi de se dire « je vais lâcher ma carrière pendant quelques années et ça ne va pas tout foutre en l'air » parce que j'ai la confiance que quand je reviendrai, je ne serai pas plus… je serai pas moins capable ou au contraire, j'aurais été enrichi de cette expérience. Donc, c'était le bon moment.
Avoir l'idée, enfin une telle idée c'est une chose, mais se donner la chance de la réaliser en est une sacrée autre. À quel moment tu t'es dit que ce projet était réaliste ? Parce qu'au départ c'est un peu un projet fou et un fantasme, peut-être un rêve de gosse ancré en toi depuis longtemps. Est-ce que dès le début, tu as l'intuition que c'était faisable et qu'à partir du moment où tu t'es mis ça en tête, en commençant à investiguer un peu plus le sujet pour rendre ça tangible, c'était faisable et que tu pouvais vraiment te lancer dans ce projet-là?
Alors, oui, à partir du moment où l'idée était formée, c'était non seulement le tour du monde, mais c'était en courant. Il a fallu mettre ça un peu à l'épreuve de la réalité. Donc, la première chose que j'ai fait, naturellement, c'est de rechercher Internet. Est-ce que ça existe de faire le tour du monde en courant? Je ne savais même pas si c'était possible, en fait. Et est-ce que j'aurais quand même fait le truc si personne ne l'avait fait avant? Je pense que oui, parce que c'était vraiment ancré. Donc, j'ai quand même fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait 6 personnes déjà avant moi qui l'avaient fait. Donc, je me suis intéressé à eux. Ils ont créé une association qui s'appelle la World Running Association, WRA. Et puis, je les ai contactés avec mon projet en leur disant, voilà, c'est... J'ai cette petite ambition, j'aimerais bien faire le voyage aussi. Ils m'ont beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'ils ont une charte avec des règles pour qualifier et valider un tour du monde. On peut pas dire qu'on a fait un tour du monde juste de manière déclarative. Oui, il faut documenter son voyage, il faut enregistrer ses données GPS, il faut traverser un minimum de continents de bout en bout. Il y a quelques règles qui sont absolument pas gênantes, qui au contraire m'ont aidé moi à structurer ce voyage. Mais qui rassure dans le sens, oui, je fais bien un tour du monde. Je suis pas juste là à prendre 2 ans de vacances autour du monde, à cavaler un peu partout. C'était vraiment un tour du monde. Donc, une fois que j'ai contacté ces personnes, que j'ai vu que c'était un peu structuré, même si 6 personnes, 6 expériences, c'est vraiment pas grand chose. J'ai lu tous les livres qu'ils ont écrits, parce que chacun de ces 6 personnes a écrit un livre à la conclusion de son aventure personnelle. Ça m'a permis de voir aussi, puis de me positionner, de quelle manière j'avais envie de faire ce tour du monde, puisque chacun l'a fait de manière très différente, et moi encore, je le fais de manière très différente de chacun des 6. Et puis après, je l'ai mis un peu à l'épreuve de la réalité, c'est-à-dire que j'ai commencé à partir de ce moment-là, je courais un demi-marathon par jour pour aller au boulot ou pour en revenir. Donc déjà, j'avais au compteur ce fameux demi-marathon par jour qui venait en plus d'une journée pleine de travail. Et puis, j'ai commencé à... J'avais trouvé un truc, j'appelais ça des journées, des voyages multimarathons. Donc, je prenais des week-ends, parfois des week-ends de 2, 3, 4 jours, 5 jours. Et puis, je courais 5 marathons en 5 jours. En fait, je faisais une boucle quelque part et je partais.
Tu étais basé à Singapour à l'époque, c'est ça?
C'est ça. Alors, Singapour, c'est une petite île dont la circonférence est 120 km. Donc, c'est 3 marathons, c'est pas beaucoup. Donc, j'ai dû sortir de Singapour pour continuer mes entraînements. Pas très loin de Singapour, il y a un gros continent qui s'appelle l'Australie. Donc, c'est là où j'allais faire mes gros marathons, mes gros voyages. Et alors, j'ai commencé par 3 marathons en 3 jours. Et puis, j'ai fait 5 en 5 jours. Je suis monté jusqu'à 8 marathons en 9 jours, en totale autonomie. Donc, en poussant mon équipement, je campais, etc. Et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, c'est pas... Est-ce que je peux me mettre sur la ligne de départ de ce tour du monde et de dire je vais courir 650 ou 700 marathons parce que j'ai pu courir 8 marathons en 9 jours La réponse, elle est non. Mais c'est pas juste ça. Je savais que j'avais en moi de courir un demi-marathon par jour déjà sans aucun problème, en le courant doucement, tranquillement, en revenant du bureau. Donc, je me disais, sans une journée pleine de bureau, si j'ai aucun stress de timing, si j'ai aucun stress d'arriver à mon point d'arrivée à telle heure ou quoi, ça devrait pouvoir marcher. Et puis, le fait de l'avoir testé en continu avec ces voyages de marathon répétés, ça me donnait l'impression que si je cherchais pas à faire une performance extraordinaire, c'était faisable.
Est-ce que tu peux nous parler, et je ne sais pas à quel point tu y accordais de l'importance, mais des retours de ton entourage quand tu as partagé avec eux ce projet? Est-ce que c'est un projet qui était accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, du scepticisme, un peu des deux? Et est-ce que ça a glissé sur toi? Enfin, est-ce que de toute façon, toi, tu étais dans ce projet-là à titre personnel et puis il aurait lieu de toute façon?
Alors, c'est un des éléments qui a été le plus surprenant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand j'ai mis du temps à l'annoncer, parce que j'avais fait toute ma petite cuisine de mon côté, à commencer à courir, c'est-à-dire à commencer à faire ses demi-marathons par jour, à prévoir un peu ses marathons, ses voyages marathons. Et quand je l'ai annoncé vraiment timidement, la réaction, ça a été « Ah, pas mal, mais c'est génial ça comme projet ». Et en fait, il n'y a à aucun moment… des personnes qui me connaissaient bien, que ce soit la famille proche ou mes amis proches, à aucun moment quelqu'un m'a dit « Non, mais t'es complètement barré, là, arrête ton truc, quoi. C'est juste fou, t'y arriveras jamais ». Pas une seule fois. En fait, j'ai l'impression que pour les gens, c'était à peu près aussi évident que ça l'était pour moi, pour les gens qui me connaissent bien. Et donc ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'encouragement même. Et donc, il n'y a pas un moment où je me suis retrouvé dans la position de me dire est-ce que c'est vraiment le bon choix? Ça a été juste une évidence, pour moi et pour les autres.
Qu'est-ce que tu cherches fondamentalement à vivre avec cette aventure et quels sont les messages que tu souhaites faire passer à travers elle?
Ce que je souhaite vivre vraiment, c'est ce que je recherche. C'est une longue quête. Hein. Là, j'ai maintenant 43 ans, 44 ans. C'est la quête d'une vie, en fait. C'est la quête d'avoir l'expérience du monde. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais d'en avoir une expérience physique du monde. C'est presque comme si je voulais me rouler dedans, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Mais... Non, mais il y a un côté un peu comme ça. Il y a quelque chose de très enfantin, de très naïf. Et il y a quelque chose de très... comment dire, je vais chercher ces étapes à la sueur de mon front, en fait.
Est-ce qu'il y a une dimension très charnelle et sensorielle, en fait, presque physique et viscérale dans ce que tu cherches à vivre avec ce projet-là.
Tout à fait. Et je pense que, mais ça correspond aussi à ma manière de fonctionner intellectuellement aussi. Je suis quelqu'un qui va très bien performer, qui va très bien réussir à faire ce que je fais. Quand j'ai une compréhension physique et voilà presque charnelle, comme tu dis, des choses. Même si tu m'envoies bosser pour une, j'en sais rien, je vais dire un truc au hasard, pour une boîte qui fabrique des dentifrices, il faudra que j'aille sur la chaîne de production pour voir le type de dentifrice qui va se fabriquer et comment ça marche et tout. Et à partir du moment où j'ai compris ça, où je l'ai vu de mes yeux, où je l'ai compris avec tous mes sens. Là, je peux donner sens à ce que je fais. Et en fait, cette quête en courant autour du monde, c'est un peu comme si j'allais faire le tour du proprio. Si tu veux, tu vas visiter une maison dans laquelle tu vas t'installer. La première chose que tu as envie de faire, c'est de cavaler à tous les étages et d'ouvrir toutes les portes et de voir toutes les chambres. Et moi, j'ai ce besoin-là avec le monde qui m'entoure. Et je trouve ça, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé d'avoir mis sur pied ce projet et d'avoir eu l'audace d'y aller, parce que là, ça fait un an et demi que je suis sur la route. J'ai jamais été à un tel niveau d'intensité, de bonheur dans ce que je fais au quotidien, tous les jours.
Surtout en ce moment, pendant cet enregistrement, j'en suis sûr.
Exactement. Non, mais je suis parti. En fait, la crise du Covid a commencé 3 mois après que je sois parti. Donc là, il y a eu quand même beaucoup de questions. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut le. Et en fait, les questions, elles ont été balayées très, très rapidement. Parce que pour moi, c'est une évidence qu'au contraire, il faut continuer. Au contraire, s'il y a un moment plus qu'un autre, c'est bien celui-là. Il faut continuer, absolument, tant que je peux.
Ce projet et les convictions qui lui ont donné vie sont intimement liés à un personnage marquant de ta famille, à savoir ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur elle? Est-ce qu'elle a joué un rôle particulier dans ton éducation? Et puis surtout, quelles valeurs elle t'a transmises et que toi aussi, tu as envie de faire rejaillir à travers ce défi?
Oui, bien sûr. Il faut savoir que pour reprendre à la masse, sur les 6 personnes qui ont fait ce tour du monde, il y a une femme. C'est une femme et 5 hommes. Et c'est vrai que moi, j'ai été éduquée dans une famille avec une figure assez importante qui est ma grand-mère, qui était une féministe, vraiment de la première heure, j'ai envie de dire, puisqu'elle a été directrice de la première bibliothèque féministe de la ville de Paris. Elle avait des opinions très tranchées. Elle c'était une femme forte, une femme très intellectuelle, mais et qui avait aussi une vie un peu mouvementée. Elle avait été éduquée entre 2 pays. Elle avait quitté son pays pour aller rejoindre un autre. Elle s'est installée en France. Elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait fait des études scientifiques. Elle est devenue directrice de cette fameuse bibliothèque féministe. Elle me donnait l'impression d'une femme très forte, en même temps, elle était très drôle, très abordable, très, très douce, mais qui menait sa vie. Elle s'en laissait pas compter, comme on disait. Et pour moi, c'était aux antipodes un peu, la manière dont elle a vécu sa vie, et pourtant, je parle des années 40, des années 50, 60, etc., hein, aux antipodes de ce que je pouvais voir en termes de modèle de la femme dans la société. Elle pouvait être une femme, elle pouvait être une femme forte sans se conformer à l'image de ce que la société attend de ce à quoi une femme doit ressembler ou comment une femme doit se comporter. Et ça, moi, je trouvais ça extraordinaire, je trouvais ça génial. Cette femme-là, elle représentait tout ce que j'aimais bien, en fait. Et donc, du coup, je me suis rendu compte du privilège que j'avais de pouvoir, moi aussi, mener ma vie comme je l'entendais, prendre mes propres décisions. Et puis, être capable de réagir, de m'insurger sur des choses que je voyais autour de moi, sur des comportements, et puis surtout de mener ma vie comme je l'entendais, mais pas en essayant de me conformer à une image de la femme, où une femme, ça part pas toute seule en short avec des baskets faire le tour du monde, par exemple. C'est un exemple. Et donc, c'était la cause des femmes de ma grand-mère, un peu. C'était ce qu'elle représentait pour moi et ce pourquoi elle vivait. Et donc, quand je suis parti faire ce tour du monde, ça m'est paru important aussi de rendre la monnaie de la pièce, j'ai envie de dire, de rendre quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai contacté cette ONG qui s'appelle Women for Women International et qui, eux, viennent en aide, en fait, aux femmes dans des périodes assez difficiles qui sont les après-coups de la guerre et qui les aident à reconstruire des communautés. Parce qu'on ne va pas forcément aider les femmes. En fait, les femmes se retrouvent sur la première ligne quand une guerre est finie, quand un conflit est fini. Les hommes reviennent. Alors, soit ils reviennent pas parce qu'ils sont morts, soit ils reviennent blessés, soit ils reviennent psychologiquement quand même très affectés. Et il incombe souvent aux femmes de reconstruire ces communautés. Des femmes qui, dans ces régions du monde, n'ont pas forcément reçu l'éducation, les outils nécessaires pour reconstruire. Donc, en fait, cette ONG, elle arrive, elle leur vient en aide en leur disant, bah, vous aussi, en fait, c'est vous qui êtes les piliers des sociétés de demain et qui allez devoir tout reconstruire. Elles en ont autant les capacités qu'un homme, il n'y a aucune différence. Et donc, c'est de leur donner la confiance. Donc, je suis devenue ambassadrice pour cette ONG. Je leur ai promis de lever des fonds. Alors, de manière symbolique, la promesse que je leur ai faite, c'est de lever $1 par kilomètre couru. Voilà. Donc, ça m'accompagne au cours de ce voyage. Et c'est vrai que c'est l'image de ma grand-mère, d'abord, pour ce qu'elle m'a apporté. Et puis, de savoir que ce que je fais sert aussi à quelque chose d'une certaine manière.
Est-ce que tu peux juste nous dire comment soutenir cette ONG, One for One International, et quels sont les moyens très concrets pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, si demain ils veulent soutenir ton projet, mais aussi soutenir les engagements de cette ONG?
Tout à fait. Alors, sur mon site internet, qui, je pense, tu le mettras un peu en lien du podcast, loutirun.com, sur le site internet, il y a un bouton de donation. En fait, il y en a plusieurs sur le site. Vous pouvez voir pourquoi, etc. Et ça va directement sur une plateforme de fundraising, de levée de fonds, qui récupère les donations et gère un compteur pour moi qui permet de voir combien de mes kilomètres ont été sponsorisés et qui reverse directement à l'ONG Women for Women. Donc, si vous allez sur mon website, même si vous allez sur ma page Facebook, aussi, on pourra mettre le lien. Ou Instagram, vous verrez le lien. Et...
Tout sera dans la description de l'épisode, effectivement, là, tous les bons points d'entrée pour venir soutenir cette ONG.
Voilà, et donc, si vous considérez qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez envie de sponsoriser 10 de mes kilomètres, même si 10 ou 5 de mes kilomètres, ça ne paraît pas beaucoup pour vous, pour moi, c'est hyper important, parce que c'est ces fameux kilomètres traduits en dollars qui me permettent d'atteindre mon objectif de levée de fonds. Voilà.
C'est noté. J'invite tout le monde à soutenir, en tout cas, ton initiative et cette ONG. On va parler maintenant un peu plus spécifiquement de l'organisation à proprement parler de la course, qui n'a pas dû être une mince affaire. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps on met pour préparer un tel tour du monde et puis quelles sont les principales phases de la préparation, d'investigation? Combien de temps il faut imaginer consacrer à un tel projet avant de réellement faire le premier mètre de ce tour du monde?
Alors, je pense qu'entre le moment où j'ai complètement finalisé l'idée, enfin que c'était clair dans ma tête que ça allait être un tour du monde en courant, et le moment où je suis parti, je pense qu'il y a eu à peu près 2 ans qui se sont écoulés. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu 3 axes en fait de préparation. Il y a eu la préparation physique. Je voulais être sûr que mon corps pouvait soutenir l'effort. Donc là, entre autres, c'était de courir ce fameux demi-marathon par jour en allant ou en revenant du bureau en courant. Donc la préparation physique, organiser tous ces petits voyages marathon pour être sûr que je pouvais encaisser de courir 3 marathons de suite ou 5 ou 8, etc. Ça, c'est l'élément physique. Donc quand je dis que je l'ai mis sur 2 ans, j'aurais peut-être pu couper, j'aurais peut-être pu faire moins, faire 1 an de test et dire c'est bon, je peux partir. Mais bon, comme il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, je me suis dit que j'allais fixer ça sur 2 ans. La deuxième partie pour moi, c'était la partie financière. Je voulais le faire en autonomie complète. J'ai pas de sponsor, hein, juste pour vous dire. Donc, je suis complètement auto-financé. Et donc, il allait falloir que j'ai les finances en ordre, on va dire, pour m'absenter de mon travail, parce que j'ai tout quitté, hein, j'ai plus de travail, j'ai plus rien, et pour être autonome pendant 2 ans, et maintenant ça va être plutôt 3 ans d'ailleurs avec le Covid.
On parle d'un budget qui est de quel ordre, Marie?
Alors c'est très compliqué à dire, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Je suis parti sur, en fait, j'ai établi mes frais fixes, qui sont les coûts des billets d'avion entre chaque continent. Il y en a pas beaucoup, il y a 4-5 billets d'avion à prendre, c'est tout, c'est pas grand chose. L'équipement, donc la poussette, la tente, le matériel de camping, etc. C'est pas très très cher. Ce qui coûte cher, c'est le budget quotidien, mes frais variables, comme j'appelle ça. Donc c'est les frais de bouche et les frais de logement. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est pas possible de vraiment vous donner une réponse? C'est que là, en ce moment en Europe, je me loge dans le dur. Je prends des bed and breakfast, des chambres, etc. Mais quand je serai en Australie, ce sera plutôt du camping. Donc, on sera sur un coût zéro en hébergement. Donc, je ne sais pas comment ça va s'équilibrer au fur et à mesure de ce, dans l'ensemble du tour du monde. Mais c'était quand même un budget à mettre de côté. Il fallait quand même se dire, je vais pouvoir, parce que la seule chose que je ne voudrais pas, c'est ne pas être capable d'aller au bout uniquement pour une question financière. Ça, pour moi, ça serait la pire des choses. Je ne laisserais pas ça arriver. Je préférerais camper même par moins 10 degrés plutôt que d'arrêter ce tour du monde. Mais bon, il fallait quand même mettre les finances en ordre. Donc, l'aspect physique, l'aspect finance, et le troisième point, l'aspect logistique. Alors, l'aspect logistique, c'était de déterminer combien de kilomètres je vais faire par jour. Je savais que je pouvais courir à peu près un marathon par jour, mais est-ce que le monde est fait pour ça? Est-ce que, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de traverser l'Europe, j'en suis à plus de 13 500 kilomètres en Europe, c'est fou. Mais effectivement, l'Europe est tellement peuplée que je suis capable de faire 40-45 kilomètres par jour et de toujours tomber sur une ville. Je me suis pas retrouvé une seule fois dans une situation où il n'y avait rien à mon arrivée. Donc, j'ai toujours pu me loger et manger dans les endroits où j'arrivais. Ce ne sera pas le cas, comme j'ai vu, en Australie. Ce ne sera pas le cas dans certaines parties d'Amérique du Nord. Mais l'idée, c'est que j'ai passé 2 ans à utiliser toutes mes pauses déjeuner, à être avec 2 ou 3 écrans, avec Google Maps, avec Booking.com et avec mon tableau kilométrique pour faire toutes les étapes de ce tour du monde une par une. Donc, et avec des annotations, parce qu'il faut aussi regarder, hein, une étape à plat, sans trop d'élévation positive, ça marche, mais quand on doit traverser des Andes, ça prend 1000-1500 mètres d'élévation très facilement en moins d'un marathon. Il fallait que ça soit possible aussi physiquement. Donc en fait, j'ai passé, bon, je dis 2 ans, mais je faisais ça sur mes pauses déjeuner, hein, donc c'est pas non plus. Ouais, j'aurais peut-être pu faire plus court. Mais en gros, oui, il a fallu que je me donne la certitude que ce tour du monde était faisable et que soit je pouvais camper quelque part, soit je pouvais trouver à manger, soit je pouvais trouver à me loger, sans me mettre en danger. Donc voilà, donc j'ai pris ces 2 ans pour vérifier les 3 aspects du voyage, les 3 aspects de la préparation. Pardon.
Est-ce que tu peux nous dire comment tu as planifié ton parcours? Est-ce qu'il est vraiment calibré au jour près? On occulte complètement la notion de Covid là pour l'instant, mais est-ce que, sur le principe en tout cas, tu le calibres au jour près ou est-ce que tu t'accordes de la latitude et tu te dis que potentiellement tu dois consacrer un certain nombre de jours approximatifs à un tel pays, par exemple, ou est-ce que vraiment c'est à la virgule près et tu as déjà ton parcours qui est parfaitement dessiné? Et si oui, à quel horizon? Est-ce que c'est la totalité du parcours? Est-ce que c'est à X semaines?
Alors, tout le parcours, continent par continent, était dessiné au jour près. Et je pense qu'il était tenable, parce que quand je suis parti, donc avant le Covid, hein, on va dire, les 3 premiers mois, je m'y tenais au jour près. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas flexible. Par exemple, dans ces 3 premiers mois, j'avais affronté une tempête. J'étais en Espagne, sur la côte est de l'Espagne. Il y a eu une tempête avec des vents à plus de 120 km/h. C'était juste pas possible d'être dehors, encore moins en poussant une poussette avec de l'équipement dedans. Et j'arrive même pas à la tenir. Donc, dans ce cas particulier, j'ai dû passer une journée de repos qui n'était pas prévue. Donc, j'ai décalé mon parcours d'une journée. Sachant que j'ai toutes mes réservations qui sont faites à peu près 10-15 jours d'avance maximum. C'est pas grand chose, c'est gérable. Il suffit de recontacter tout le monde et de repousser d'une journée. Généralement, c'est faisable. Donc, j'ai toute la flexibilité que je veux. Mais il se trouvait que j'arrivais à suivre ce planning à la virgule près, comme tu dis. Et c'était plutôt rassurant. Ça me permettait d'avancer un petit peu tranquillement. Depuis le Covid, j'ai dû refaire tous mes plans naturellement. Mais j'arrive à adapter. J'ai gagné beaucoup de confiance en moi dans la capacité que j'ai à refaire des plans et des plans qui sont viables.
Comment est-ce que tu as déterminé ton rythme de 6 jours de course et 1 jour de repos hebdomadaire? Est-ce que c'est pour des raisons physiques? Est-ce que c'est pour garder de la fraîcheur psychologique dans cet effort au long cours?
C'est une très bonne question. Je me la suis beaucoup posée, en fait, parce que au début, en fait, l'idée, c'était de se dire, j'aurais besoin d'une journée, disons, par semaine, pour des questions bêtes de logistique, tu vois, pour laver mes vêtements, par exemple, trouver un lavomatique quelque part. Pour passer du temps à refaire mes réservations d'hôtel, pour passer du temps à, je sais pas, s'il faut réparer mon équipement, s'il faut aller acheter une nouvelle paire de godasses, etc. Donc, je m'étais dit que j'en avais besoin. Et au fur et à mesure, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'arrivais à placer toutes ces tâches sans nécessiter un jour de repos. Mais j'ai quand même conservé, pas parce que j'en ai besoin physiquement, je pense pas que physiquement ce soit nécessaire, mais ça donne un rythme au voyage. Tu vois, on repart et on se dit, ah tiens, là, par exemple, il y a des villes qui donnent envie. Hein. Là, il y a quelques semaines, je me suis arrêté à Rome. C'était extraordinaire de pouvoir se dire, j'ai un jour complet sur Rome, je vais pouvoir me lever à l'aube et puis essayer de tout voir. Alors que si j'avais couru, il me reste que l'après-midi, puisque je cours le matin, je finis vers midi, 1h, et donc il me reste l'après-midi pour visiter. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir profiter des villes et d'en voir un peu plus. C'est plus un luxe que je m'autorise plutôt qu'un besoin. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler juste de la partie équipement ? On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure, tu as une poussette comme compagnonne de route. Qu'est-ce que tu as dedans ? Avec quoi on part en fait quand on se lance dans un tel projet ? Qu'est-ce qu'on accompagne ? De quoi on a besoin au quotidien ? J'imagine que c'est le strict minimal. Qu'est-ce que c'est ?
Alors pour la partie Europe, c'est très simple, parce que pour la partie Europe, je n'ai pas la partie camping. Hein. Donc dans ce cas-là, dans le sac, il y a exactement 3 tenues de course, des sous-vêtements, une tenue jean, pull t-shirt basique, voilà. Il y a un ordinateur, une trousse de toilette, il y a un petit sac avec tous mes câbles, les câbles pour mes 2 GPS, 2 GPS de rechange, le câble d'ordinateur, de téléphone. Et voilà, et donc quand on met tout ça dedans, ça fait 11 à 12 kilos, ça va vite. Donc il y a ce sac de 12 kilos avec juste l'essentiel. La poussette elle-même fait à peu près 12 kilos, c'est une poussette, elle est super, elle a des amortisseurs, des roues de vélo, elle est tout terrain, elle me permet même, j'ai traversé les montagnes, là en Italie, j'ai traversé les montagnes en Grèce aussi, j'ai été sur des, donc ça veut dire aller sur des petits sentiers de montagne, on est bien d'accord, pas du tout sur des routes, et elle va absolument partout, elle est très très solide. Donc cette poussette fait une douzaine de kilos, et dessus, en plus de mon équipement de 12 kilos, je porte un petit sac hydrotherme avec dedans des bouteilles d'eau en plus au cas où j'ai besoin d'eau, un petit peu de nourriture mais pas grand chose juste au cas où, et puis des vêtements de pluie, donc s'il se met à pleuvoir et que j'ai besoin, j'ai le pantalon et le haut qui me permettent de rester au sec. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a, il y a vraiment pas grand chose. Sur les parties camping, donc là je parle de l'Amérique du Nord plutôt et l'Australie, j'ajouterai à peu près 5 kilos d'équipement en plus. C'est pas négligeable, mais ça veut dire une tente, un matelas gonflable, un sac de couchage et puis le matériel pour me faire à manger le soir en bivouac. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre.
Quelle est la chose, s'il y en a une, que tu appréhendais au moment de t'es lancé sur ce tour du monde ? Est-ce qu'il y avait des points de vigilance particuliers ou voilà, quelque chose qui te préoccupait un peu plus ?
J'essaie de me remettre un peu dans l'état d'esprit où j'étais le 6 décembre 2019, où je me suis mis sur la ligne de départ. C'était une joie indescriptible. J'avais très peu de points d'angoisse, quoi. J'étais juste tellement contente de partir. Le seul truc, c'est que je me disais, il faut absolument que je tienne au moins 3 semaines pour pas avoir l'air ridicule. Je me disais, moi, je sais pas, moi, le maximum que j'avais fait, c'était 8 marathons d'affilée. Là, je me préparais à en faire 650. Et je me disais, je l'avais pas beaucoup annoncé. Hein. J'avais hésité, j'avais fait juste un interview télévisé avant de partir, parce que je voulais pas en faire trop, vu que j'avais tellement d'incertitudes. Le but, c'était, je me disais, allez, je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir autant que je peux, mais au moins 3 semaines pour pas avoir l'air trop ridicule. C'était mon seul souci. Et puis bon,
mais
les 3 semaines sont passées.
Un an et demi plus tard, on peut être réussi. Voilà.
Exactement. Non, mais ce que je veux dire par là, et c'est important, c'est quand on se lance là-dedans. Sur mon parcours, je croise beaucoup de gens qui me disent, je parle à beaucoup de gens et ils me disent tous, ah, moi aussi, moi j'ai un rêve de faire ceci, de faire cela. Ils ont tous peur et ils s'arrêtent à la peur qu'ils ont. Au bout d'un moment, quand on fait ce fameux saut dans le vide, c'est grisant en fait. Moi, c'était très grisant, je ne savais absolument pas. Moi, là, j'en suis à plus de 300 marathons maintenant, mais comment je pouvais regarder quelqu'un dans les yeux en disant, mais bien sûr, je vais faire 650 marathons, bien sûr, je le sais, c'est possible. Ben non, on ne sait pas du tout, là même demain, il peut se passer quelque chose, mais. C'est tellement grisant de prendre ce risque, de faire ce petit pas-là et de sauter dans le vide et d'y aller en se disant tout ce qui va me maintenir, c'est juste la force de mon désir de faire ce truc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que quoi qu'il arrive, ça marchera. Et c'est ça qui est extrêmement grisant.
Est-ce que tu redoutes la dimension partiellement solitaire de ce projet ? Je sais que quand on voyage, on n'est jamais vraiment seul, mais il y a quand même des moments, peut-être les moments de course où tu es un peu plus solitaire. Est-ce que c'est un choix d'avoir aussi ces moments pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement agréable pour toi, ces moments plus solitaires ?
Je pense que ça correspond tout à fait à ma personnalité. C'est vrai que j'ai pas du tout de peur vis-à-vis de ça. Je sais que les moments qui vont être très difficiles, ça va être par exemple les traversées de désert. Il y a une traversée de désert en Australie qui fait plus de 1600, je crois, kilomètres, la traversée du Nullarbor, le désert. dans l'ouest de l'Australie, ça va être très compliqué parce que c'est de la ligne droite avec du sable rouge à droite, du sable rouge à gauche, sur une ligne droite qui dure plus de 1000 km. Donc c'est très compliqué à gérer parce que c'est la même course tous les jours, le même paysage tous les jours, le même, vous savez même plus si vous devez partir à droite ou à gauche quand vous voulez le matin. Donc ça va être très compliqué. Maintenant, en termes de solitude, je pense que j'aurais été complètement incapable de faire, d'entreprendre ce voyage il y a peut-être 20 ans. Parce que là, ça aurait été vraiment la grosse solitude et rien. Alors que quand même, là, je suis en train de courir, si mon téléphone sonne et que c'est WhatsApp, je continue de courir, je mets mes écouteurs et je prends le téléphone. Et ça peut être une copine qui m'appelle de Singapour, ça peut être ma sœur qui m'appelle, ça peut être n'importe quoi. Je prends et je papote et je suis en train de courir, je raconte ce que je vois et puis on papote, on a une discussion. Je suis pas toute seule du tout. En plus de ça, dans toutes les villes où je m'arrête, j'essaye au maximum d'avoir des contacts avec les gens qui m'accueillent, quand je vais manger, quand je vais prendre mon déjeuner, etc. Je parle, j'échange et en fait, je me sens pas du tout toute seule. Le fait que je sois seule, ça m'ouvre beaucoup plus aux autres, en fait. Mais c'est vrai que sans les téléphones portables, sans toutes ces choses-là qui me permettent de rester connecté, ce serait peut-être plus compliqué à gérer. Mais je n'ai pas eu à me poser cette question.
Ça y est, nous sommes le 6 décembre 2019, le coup d'envoi de ton tour du monde est donné. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi comme point de départ Cabo da Roca au Portugal ?
Cabo da Roca. C'est le point le plus occidental de toute l'Europe continentale. C'est-à-dire, il y a pas un point. Alors, il y a d'autres points d'Europe qui sont plus à l'ouest. Par exemple, si vous montez en Irlande, vous allez retrouver plus à l'ouest que ça. Mais si vous prenez l'Europe continentale, vous tapez le point le plus à l'ouest, c'est Cabo da Roca. Donc, pour moi, c'était symbolique parce que bon, tous les continents que je vais traverser d'océan à océan, comme on dit. À part l'Europe, c'est le seul qui a la particularité de s'arrêter au Bosphore. Mais pour moi, c'était de dire, allez, je prends les deux extrémités, le point le plus à l'ouest, le point le plus à l'est, et voilà, ça va être mon premier continent. C'est comme ça que j'ai choisi.
Est-ce que tu pourrais nous donner, parce qu'on n'en a pas parlé en détail, les grandes étapes du parcours initialement prévu et l'enchaînement des continents que tu avais en tête au moment de prendre le départ ?
Une des règles du WRA, c'est qu'il faut faire le tour du monde dans un sens continu. Donc moi, j'avais choisi de le courir d'ouest en est. Donc mon premier continent, c'était l'Europe. Ensuite, je faisais un passage en Asie du Sud-Est. On continue plus à l'est et donc du coup c'était traverser l'Australie, traverser la Nouvelle-Zélande, traverser l'Amérique du Nord, traverser l'Amérique du Sud, traverser la partie ouest de la côte africaine et retrouver mon point de départ au Portugal. Donc ça faisait l'équivalent de entre 650 et 700 marathons qui étaient donc faisables sur 2 ans, entre 2 ans et 2 ans et demi. Ça c'était le plan initial.
Et comment se sont passées justement c'est les premières semaines, si on s'attache au début de ton parcours? C'est le Portugal, l'Espagne, la France, puis l'Italie, avant que le Covid ne s'en mêle en mars 2020. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous raconter tout ce bloc, si on peut considérer que c'est un ensemble? C'est évidemment impossible, mais en tout cas, voilà, en quelques mots, nous raconter ces 3-4 premiers mois de voyage.
C'était incroyable pour moi, et en même temps, je pense que j'avais une approche assez conservatrice, c'est-à-dire que Je me collais à mon plan, tous les jours je faisais l'étape qui était prévue, j'essayais de bien me reposer, il y avait toujours cette incertitude, hein. Au début je me disais il faut au moins que je tienne 3 semaines pour pas avoir l'air trop ridicule, mais malgré tout, même quand ça s'est enclenché, j'avais quand même peur qu'il se passe quelque chose, hein. Je suis très attentive à mon corps, au moindre signe, s'il y a une petite tension dans la cheville, j'y consacre toute mon attention, si, etc. Donc je pense que j'étais très très bien partie. Ça commençait, je le sentais, à m'apporter tout ce que je voulais. C'est-à-dire que le plaisir d'être sur la route, il s'est révélé immédiatement et c'est devenu une évidence quasiment dès le premier jour. Enfin, c'était évident que c'était la course, c'était tout à fait ce dans quoi je voulais être, qu'il fallait que je continue. Et en fait, je trouve que après l'arrêt, parce que là, j'ai eu un arrêt de 2 mois et demi, presque 3 mois, au premier confinement.
Que tu as passé en France, d'ailleurs.
Voilà, que j'ai passé en France. En fait, ça m'a donné une confiance accrue 10 000 fois. C'est-à-dire que le fait d'être capable de repartir après un arrêt de 2 mois et demi, je me suis dit, allez, c'est bon, il faut lâche toutes tes gardes, en fait. Du coup, j'étais beaucoup moins strict sur le fait d'avoir à me reposer l'après-midi ou quoi. Non, je prenais une basket, j'allais me balader de manière beaucoup plus simple. Je me posais beaucoup moins de questions parce que je me suis dit, si t'as survécu à un arrêt de 2 mois et demi, t'as quand même cloué, qui a arrêté tous tes plans et t'es capable de repartir derrière comme si de rien n'était, c'est que c'est bon. L'aspect physique, ça passera quoi qu'il arrive. Donc, ça m'a permis d'être beaucoup plus souple, en fait, intellectuellement.
Est-ce que justement, pour rebondir sur ce point, est-ce que tu bénéficies d'un accompagnement psychologique pendant ce tour du monde et de la même façon, est-ce qu'il y a un suivi médical particulier, parce que tu encaisses quand même un volume et une charge quotidienne très lourde avec 339 marathons réalisés à l'heure à laquelle on se parle, ou peut-être 340 depuis. Est-ce que tu as un suivi vraiment encadré ou c'est plus ponctuellement toi qui se peut être amené à solliciter un soutien psychologique d'experts ou de proches tout simplement?
Alors en termes de suivi, depuis le départ de ce tour du monde, il n'y a rien, zéro. J'aurais bien aimé, moi, être un peu cobaye pour si quelqu'un veut faire des expériences en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait ce genre d'effort. Non, mais même, je pense que ça m'aurait intéressé, moi, pour voir, même sur tout type de problèmes. Tu vois, par exemple, l'été dernier, je me suis retrouvé par la faute du Covid à faire une partie terrible. Je me suis retrouvé au mois de juillet et août à faire la Grèce, ce qui était un truc de fou. En termes de température, c'était des plus de 40 degrés, je buvais 6 ou 7 litres d'eau, je transpirais, je ne sais pas combien de fois le poil de mon corps au cours de l'exercice. C'était compliqué quand même. Et je me disais, tiens, mais ça peut être intéressant, comment le corps s'adapte à ça. J'aurais bien aimé, je pense, c'est pas fini, hein, le tour du monde continue. Si quelqu'un est intéressé, ça peut m'intéresser de vous répondre. Et puis, tu vois, savoir qu'en hiver, là, par exemple, pendant mes marathons, pendant toute la traversée de la France au mois de décembre, janvier, je buvais à peine 250 millilitres d'eau sur l'entièreté de mon marathon. Enfin, c'est un côté un peu chameau, quoi. Oui, c'est peu, mais en même temps, j'avais besoin de rien d'autre. Et puis même au niveau alimentaire, par exemple, ça m'intrigue de me dire que moi, je pensais que je devais aller bouffer 8000, 10000 calories par jour. Pas du tout. Je fais des repas normaux. Enfin, je ne mange pas particulièrement beaucoup plus que n'importe qui d'autre. C'est fou. Ça veut dire que le corps s'adapte et fonctionne d'une certaine manière à l'économie. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un problème de manger suffisamment de calories. Comment je vais faire pour bouffer 6000, 8000 calories par jour? Je ne vais jamais y arriver, quoi. Le corps, l'estomac va dire stop. Je parisais à ingurgiter et tout ça. Et en fait, je me retrouve à manger un nombre... Alors, je fais pas des calculs précis, tu vois. Si j'étais un peu entouré médicalement, je pense qu'on saurait de manière exacte combien de calories elle mange, etc. Mais vous seriez surpris, je mange normalement. Et donc, tout ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé être suivi, mais bon, en même temps, je savais pas trop par quel bout y aller. Le truc, c'est que je suis un peu toute seule sur ce voyage, donc j'ai pas forcément les contacts, j'ai pas forcément. Mais bon, c'est un appel, si ça intéresse quelqu'un.
Manifestez-vous, je transmettrai. Ou vous écrirons via ton site.
En revanche, j'ai fait, avant de partir, dans l'année qui a précédé mon départ, j'allais voir tous les mois un physio. Alors, c'était un peu un exercice un peu absurde, j'ai envie de dire. J'allais le voir en ayant mal nulle part. Et en fait, mon message, je lui avais dit, écoutez, vous me regardez courir sur le treadmill, vous me faites faire des exercices, j'en sais rien, vous faites votre boulot. Moi, j'ai mal nulle part, mais je veux savoir si... avec ce que je fais en ce moment qui consiste à augmenter mon kilométrage de manière substantielle, est-ce que je ne suis pas en train de dégrader mes mouvements? Est-ce que je ne suis pas en train de m'affaisser? Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir un mouvement de la jambe qui va, j'en sais rien, plus vers l'intérieur? Est-ce que mon dos n'est pas en train de se courber? Est-ce que, etc. Je voulais être sûre que je n'étais pas en train de préparer des blessures chroniques, en fait. Donc, pendant un an, il m'a suivi, ce qui était un exercice périlleux pour lui, parce qu'il disait « t'es ma seule patiente que j'ai, qui n'a mal nulle part, qui n'a aucun problème et qui continue à me voir tous les mois ». Mais je pense que ça a été très utile parce que il voyait des choses et donc en fait toutes les corrections qu'il m'apportait, par exemple, il s'est rendu compte que je me rappelle de celui-là en particulier, mes hanches se refermaient en fait, j'utilisais beaucoup plus mes quads, mes quadriceps et mes mollets, j'ouvrais beaucoup moins mes hanches, qui faisait que mon mouvement se dégradait en ce sens-là. Donc, on a travaillé pendant des mois sur comment garder les jambes ouvertes, les hanches ouvertes. Quel muscle engager pour être sûr que les hanches faisaient leur boulot. C'est des petits détails, mais en fait, ça m'a permis de complètement comprendre ce qu'on appelle la proprioception. De savoir où est son corps, où sont toutes les parties de mon corps quand je fais le mouvement. C'est-à-dire, je sais où est mon pied quand il est en train de revenir derrière dans ce mouvement de révolution. Et en fait, ça a été très important pour moi, ce travail d'un an, même si vous pourriez me dire, bon, en fait, t'as eu aucune blessure, le mec, il a rien fait. Il a pas du tout rien fait, en fait. Il m'a appris à comprendre comment tout bougeait, comment tout s'articulait, l'importance des alignements, l'importance de la posture. Et ça, je pense que même si j'ai pas eu à le recontacter, il m'avait pourtant dit, si t'arrives quoi que ce soit durant ce tour du monde, tu me recontactes n'importe quand et on se fait des séances en ligne via Skype, je t'aide. Il n'y a pas eu besoin, mais je pense qu'il a fait énormément pour moi.
On l'a très rapidement évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler de façon dont tu s'organises une journée type pour toi ? Tu nous l'as dit, tu te réveilles au chant du coq, même pas besoin du réveil. Je ne sais pas si on pouvait parler de journée type vraiment, mais j'imagine que tout ça est quand même assez structuré. Quel temps tu te donnes pour courir ? Est-ce que c'est un moment que tu privilégies le matin ? Est-ce que c'est variable selon les saisons, les époques ? Est-ce que là aussi, tu te donnes un peu de latitude en fonction de la météo, du parcours ? Ou est-ce que vraiment tout est réglé comme du papier à musique et que vraiment tu as un cadre et que peut-être même toi, ça t'aide à structurer tes journées ?
Alors, il y a tout à fait une journée type, oui, oui. La seule variation que je connais, en fait, depuis un an et demi que je suis parti, c'est par exemple l'été, quand il fait des chaleurs extrêmes, je vais chercher à partir le plus tôt possible. C'est-à-dire que je peux partir facilement une heure avant le lever du soleil pour éviter des grosses chaleurs. Mais la journée typique, c'est je me lève et je pars au lever du soleil pour avoir de la visibilité sur la route. Et puis, j'ai aucune contrainte de temps, mais vu que mon corps, à la force de l'habitude, fonctionne un peu de la même manière tous les jours, j'arrive toujours entre midi et 2 heures. Alors, ça varie parce que si j'ai 1000 mètres d'élévation positive pendant de dénivelé positive
ça
pendant une journée,
ça
sera plus de 2 heures de l'après-midi, ça va être compliqué parce que je pousse quand même 30 kilos à bout de bras, donc sur les côtes, c'est compliqué. Ça dépend du terrain, du dénivelé, voilà. Mais grosso modo, c'est très rare. Très très rare que j'arrive après 2 heures d'après-midi. Donc voilà. Donc j'arrive pour l'heure du déjeuner, on va dire. Je déjeune, je me douche et là je suis une nouvelle personne.
Généralement, une nouvelle vie commence.
Voilà, c'est ça. Donc je me transforme en touriste un peu l'après-midi. Donc je vais me balader. Par contre, il y a quand même sur l'après-midi à placer à peu près 1 heure et demie de travail administratif.
D'accord. Mais c'est la question que j'allais te poser aussi parce que là la dimension communication, elle est très importante aussi pour ton projet. Savoir quel temps tu consacrais, alors je ne sais pas si tu l'englobes dans la notion administrative, mais voilà, si pour les gens qui vont aller visiter ton blog, c'est extrêmement nourri. Enfin, ça prend beaucoup de temps, j'imagine, dans la journée. Est-ce que tu fais ça de gaieté de cœur ? Est-ce que c'est un moyen aussi de te connecter à l'autre et à ton entourage et de garder du lien où que tu sois avec les échanges que tu peux être amené aussi à avoir et les réponses que les gens t'apportent suite à tes différentes publications ?
Pour moi, cette heure et demie de travail administratif, comme je dis, oui, ça englobe le blog. Et pour moi, c'est aussi important que le marathon que je cours le matin. C'est-à-dire, ça fait partie de... Pour moi, c'est mon journal de bord, en fait. Je l'écris avant tout pour moi-même et pour le partager avec ma famille et mes amis. Après, j'ai bien conscience qu'il est lu par d'autres. Donc, le style est adéquat aussi pour ça. Mais ça veut dire que donc tous les jours, j'écris ce blog. Je choisis les photos de la journée qui vont venir illustrer. Donc, il y a aussi un petit travail sur les photos que je fais. Je mets mes données GPS qui sont rendues publiques. Donc, tous les jours, il y a mes fichiers Garmin, Strava qui sont disponibles en ligne, publics. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vérifie ma trace parce que j'ai aussi une balise satellite qui est un peu l'équivalent de la balise Argos des navigateurs qui me trace vraiment, il y a un point par seconde quasiment qui est repéré et qui est tracé par la balise Spot qui est traduit sur Travel Map sur mon site internet qui permet de donner ma position géographique mais exacte quoi, au mètre près, vous savez où je suis sur le globe. Donc je vérifie tout ça, donc il y a mes données GPS, mes données Spot, le blog, les photos, mettre à jour le site internet avec le kilométrage. Ensuite, parfois, je vais faire une publication Facebook ou une publication Instagram. Mais après, c'est le temps qui me manque, en fait. Pour moi, l'essentiel, c'est mon site internet qui regroupe toutes les données de base, la documentation pour la validation du voyage. Et c'est vrai que bon, Facebook, Instagram, j'ai un peu de mal parce que je fais une publication peut-être toutes les 2 semaines ou 3 semaines. C'est pas encore assez pour communiquer dessus, mais... il faudrait que j'y consacre plus de temps, on va dire. Voilà, c'est pas encore ma grosse priorité. Mais oui, il y a quand même 1 heure et demie de travail.
Pour repartir sur ton parcours, ce début d'année, donc, tu as été contrainte de composer avec l'Europe et réimaginer ton parcours pour pouvoir aller dans les environnements dans lesquels tu es. Enfin, c'était possible de le faire. Quelle est là ta ligne d'horizon européenne ? À quelle date tu souhaites atteindre ton objectif final européen ? Puis quelle serait potentiellement l'étape d'après, le continent d'après, compte tenu du fait que l'Australie ferme ses portes ? Quelles sont tes prochaines grosses échéances et les milestones auxquels toi, tu t'attaches ?
Alors, le gros rêve, parce que voilà, c'est encore du domaine du rêve, même si ça commence à se concrétiser un petit peu quand je lis les nouvelles. Donc, c'est là, je trace vers l'est. Donc là, je suis en train de remonter l'Italie, la botte de l'Italie. Donc, je vais un petit peu vers le nord. Et ensuite, je trace direct vers l'est. L'idée, c'est d'atteindre Istanbul fin juin. Donc là, avec mon plan, c'est atteignable. Je devrais être à Istanbul fin juin. Ça veut dire que à partir du moment où j'atteins Istanbul, je termine enfin ce premier continent. Donc, c'est une grosse étape pour moi de se dire ça, de se dire que le premier continent est terminé. J'en serai à peu près 15 500 kilomètres, ce qui est quand même un bon kilométrage. Et à partir de là, il faut partir vers l'autre continent. Et alors, celui que j'ai en ligne de mire, c'est les États-Unis. L'Amérique du Nord, parce que j'ai déjà mon visa. J'ai un visa de 10 ans donc, qui me permet d'être tranquille jusqu'à quand même pas mal d'années devant, mais qui me permet aussi d'avoir cette barrière administrative déjà levée. Alors, ce qui se passe, c'est que j'attends que les États-Unis lèvent leur interdiction qui est en ce moment en cours, l'interdiction des gens qui viennent de la zone de Schengen. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'y aller. Joe Biden a annoncé qu'il devrait retourner à la normale d'ici le mois de juillet, ce qui pour moi serait parfait parce que ça s'enchaînerait parfaitement. C'est-à-dire que je finis l'Europe fin juin et boum, je peux partir direct vacciné naturellement puisque la France aura ouvert ses vaccinations. Donc, je pourrais me faire vacciner dans mon transit en France et puis partir faire l'Amérique du Nord. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le scénario dans le meilleur des cas. Si ça se passe pas comme prévu, bah, encore une fois, il faudra que je fasse un nouveau plan, une nouvelle idée d'aller autre part, de courir ailleurs. Mais de toute façon, le voyage continue, ça c'est une certitude.
C'est la question que j'allais te poser, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pourrait te faire arrêter ?
Non, là vraiment, je crois pas. Tant que, encore une fois, l'élément numéro un que j'ai mis dès le début, c'est tant que ce désir incroyable qui me tient sur une ligne d'intensité, en fait, tous les jours, hein, une intensité incroyable que j'ai jamais ressentie toute ma vie, ni dans aucun voyage, ni dans aucun travail que j'ai pu faire. Tant que c'est là, il y a vraiment rien qui peut se mettre entre moi et le voyage. Non, pas du tout. Rien du tout. Rien.
On va passer maintenant à une série de questions en rafale pour revenir sur les moments particulièrement marquants des 13 611 km que tu as parcourus jusqu'ici. Donc, question express, réponse express. Quel a été pour toi le pays le plus surprenant ?
Oh, la Slovénie.
En deux mots, qu'est-ce qui t'a séduit ?
Oh, et d'une beauté, d'une... J'avais l'impression parfois d'être dans ces grandes plaines du Montana ou je sais pas quoi. Une beauté incroyable. Partout où je regardais, c'était juste merveilleux, incroyable. L'accueil des habitants était fantastique. Un pays que je ne connaissais pas du tout et qui m'a complètement époustouflé.
Donc, ça va peut-être faire écho à la deuxième question que je vais te poser. Est-ce qu'il y a un endroit, enfin, quel est l'endroit très précis où tu t'es dit, là, je pourrais y vivre ?
Ah, bah.
Une cahute, une plage, une montagne, un endroit, une ville. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a particulièrement bouleversé ? C'est dur. T'en as tellement vu.
Mais les Balkans en général, je vous aurais bien répondu la Grèce, mais j'y ai déjà vécu de nombreuses années. Donc non, mais c'est vrai que les Balkans, ça m'a frappé comme quelque chose qui ne m'avait pas interloqué jusqu'ici. Je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais habiter en Serbie, par exemple. La Serbie, c'est magnifique. C'est juste génial, ouais. Donc oui, ça, j'y ai pas pensé.
Ton moment de grâce ultime.
Moment de grâce ultime. Alors,
le moment où tu t'es arrêté, tu t'es dit là je vis. Enfin, tu te l'as dit beaucoup, tu nous l'as fait en tout cas laisser entendre depuis qu'on échange plein de moments merveilleux. S'il y a une image, là, si on en parle dans 10 ans, et si je te parle de ce tour du monde, quelle est peut-être l'image, en tout cas jusqu'à ce que tu as pu en voir jusqu'à maintenant, qui viendrait illustrer un moment hors du temps ?
Il s'est passé dans ma préparation en fait, mais ça fait partie du tour du monde. Hein. C'était un jour de Noël, je courais 8 marathons d'affilée et j'étais en Australie sur une espèce de route où il n'y avait rien le long de cette route. Et donc je pars le matin du jour de Noël et il y avait rien, non seulement rien, pas de ville ou quoi, mais il n'y avait pas non plus de circulation. Et puis j'entends une voiture qui arrive derrière, car sur ces longues routes australiennes, la voiture, tu l'entends pendant 20 minutes, parce qu'il n'y a qu'une voiture sur la route et le moment où elle te passe dehors. Et donc il y a cette voiture qui passe, il est peut-être 9h du matin, le jour de Noël. Et quand elle me passe devant, je vois qu'elle est un peu particulière, parce qu'ils l'ont décorée avec des trucs de les reines du Père Noël, tu vois. Enfin, bref. Et donc cette voiture passe. Et puis je continue de courir, j'ai quand même plus de 40 km à faire. Et genre 2 heures après, j'entends une voiture qui arrive, mais devant moi, du coup. Et j'entends le bruit du moteur, et puis la voiture, et je me dis, tiens, cette voiture, je la reconnais, c'est une espèce de décoration de reine et tout. Et la voiture se gare, genre, à 200 mètres devant moi. Et sur une route où je suis quand même une femme seule, dans un endroit complètement isolé, il n'y a rien. Donc, il y a le moment où on se dit, est-ce que je dois avoir peur ou est-ce que je dois. Tu vois. Et donc, bah, du coup, je continue à courir. De toute façon, j'ai ma poussette, donc les gens pensent souvent qu'il y a un bébé dans la poussette. Donc, je continue de courir, et au moment où je passe devant la voiture, le type ouvre sa fenêtre et là je découvre une montagne de muscles. Le mec il ressemblait à ZZ Top, tu sais, avec la grande barbe qui tombe jusqu'à
genou.
Et donc avec des muscles énormes, des tatouages partout et tout, et une banane sur le visage. Et il me dit, avec son accent bien prononcé australien, il me dit hey, « je t'ai vu passer ce matin sur la route, je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien devant toi, donc quand je reviendrai, tu seras encore sur la route. » Et il m'a dit « c'est Noël, alors du coup, voilà, je suis allée te chercher des trucs en revenant de mes courses. » Et là, il me donne un truc avec, il y avait des sandwichs qu'il avait fait toaster, il y avait une boisson fraîche. Et il me dit « voilà, tu vas me faire plaisir, c'est Noël, il y a quelques arbres à 200 mètres plus loin, tu te mets dessous, tu me mets à l'ombre, et puis voilà, joyeux Noël. » Et le mec repart. J'étais là, mais et je ne sais même pas son nom et je ne sais même pas rien. Et j'étais là, mais voilà, ça c'est formidable. Juste pour des moments comme ça, je veux bien en faire 600 des marathons.
Question gastronomie, la spécialité locale favorite que tu as découverte à l'occasion de ce tour du monde? Est-ce que tu as déniché une petite pépite gustative?
Oh là là, mais en fait, tout l'an dernier, quand je faisais la côte croate, d'aller se mettre en bord de mer et d'avoir la pêche du jour, c'était n'importe quoi, mais du poisson qui te cuisinait comme ça. C'était juste, tu avais l'impression de, tu cours le long de la mer pendant 40 km, tu poses tes fesses quelque part et on te sort le poisson qui te sort de la mer et on te cuisine façon barbecue ou je sais pas quoi, et c'était juste délicieux tous les jours. La nourriture en Croatie, puis même sur la côte grecque, c'était un peu pareil, un peu plus bas. C'était juste délicieux, mais ouais, délicieux.
Ta journée de marathon la plus difficile?
Oh, sans aucun problème. Alors, il y en a deux, en fait. Allez, on va dire ça. Celle entre Trois-Ponts et Bastogne, dans les Ardennes. C'était au mois de février. Et là, il y avait... Il y avait 54 km avec 900 mètres de dénivelé positif. Il y avait une tempête de neige. Il faisait moins de 10 degrés. Il y avait du brouillard et j'avais le vent de face. Voilà.
Tous les ingrédients étaient réunis.
Ah oui, là, il en manquait pas.
Le combo parfait.
C'était, et je ne voyais rien autour de moi. J'étais paumé dans le brouillard avec la neige qui me tombait à l'horizontale dans les yeux. C'était très, très, très compliqué. Très compliqué.
Et enfin, dernière question, le pays que tu es la plus impatiente de découvrir, ou en tout cas de retrouver, si c'est un pays que tu connais déjà, dans ce qui te reste encore à faire?
Ah, sans aucun doute, les Andes, entre le Chili et l'Argentine, la traversée des Andes. Mais j'attends ça. Pour moi, c'est le cadeau de Noël qui m'attend tant que je suis pas arrivée. J'ai hâte. Pour moi, c'est un endroit mythique. Et je suis jamais allée en Amérique du Sud. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Et j'attends ça comme... ça va être le plus beau cadeau.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Marie. On approche des toutes dernières questions de l'épisode. On va parler quand même un peu d'avenir et un peu plus long terme. Qu'est-ce qu'on fait après un tour du monde? Est-ce que tu te projettes déjà dans un après? Ou est-ce que là, tu as trop de choses à vivre encore avant d'imaginer ce que pourrait être ta vie à l'issue de ce tour du monde? Est-ce que tu verrouilles complètement cette perspective? Est-ce que tu ne veux pas savoir?
Je comprends ta question. Pour moi, toute ma vie a été faite... Là, je suis sur un tour du monde, c'est quelque chose d'un peu différent, mais toute ma vie, je l'ai faite sur le mode de... Pas je me laisse porter par le vent, parce que j'aime pas même ça, il y a un côté un peu trop insipide là-dedans. Mais si mes convictions sont fortes en termes de ce que je veux faire, d'où je veux être et comment je veux mener ma vie, je trouverai forcément quoi faire. Par exemple, tu vois, c'était en quelle année? En 2007-2008, je me suis mariée et mon mari était grec, alors il a fallu que je quitte le pays dans lequel je vivais, il a fallu que je quitte la carrière que j'avais avec le salaire qu'elle est avec le train de vie et tout pour m'installer en Grèce pour le suivre. Et ben, j'ai trouvé quoi faire, j'ai fait autre chose, j'ai monté une boîte qui faisait... D'ailleurs, je travaillais dans le sport. Ce que je veux dire, c'est que les choses se mettent en place. À partir du moment où tu es clair sur qui tu es et ce que tu veux, ça ne me pose pas une grande question. Pour moi, ce n'est pas une question très intéressante à l'heure actuelle. Pour moi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est d'être absolument à 100% dans le voyage que je fais, d'être à 100% à ma tâche et à mon projet et à mon rêve. Et puis, j'ai pas trop de peur sur ce qui va se passer après. Je pense que ça se dessinera de manière très logique et très évidente.
Oui,
et
puis on peut avoir la certitude, comme tu l'as dit, que tu sortiras de toute façon enrichie, pleine de confiance. Mmh. Enfin voilà, ça ne peut que bien se passer. Il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Marie, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, qui est la citation qui te motive ou qui te guide dans la vie. Est-ce qu'il y a un motto que tu souhaiterais partager avec nous?
Eh bien oui, et alors puisque je suis en Italie, je vais le dire en italien. C'est très rapide, hein. Ça se fait en trois phases et je vous le traduis.
J'aurais peut-être besoin de Google Traduction, tu m'expliqueras, tu me traduiras.
Donc c'est quelque chose qui est très connu, c'est très populaire.
Qui va piano, c'est ça?
Eh ben voilà, qui va piano, va sano et va lontano. Donc, qui va piano, c'est qui va doucement. Va sano, c'est va en bonne santé. Et va lentano, c'est va loin. C'est-à-dire que, voilà, quand on ne presse pas les choses, quand on laisse le rythme naturel s'installer, on peut faire des choses en renforçant même sa santé, si possible, et on peut aller loin, du coup. Voilà. C'est mon motto.
Un motto de circonstance, parfaitement, effectivement. Marie, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette fabuleuse aventure qui promet de continuer à te faire vivre chaque jour de grandes et belles émotions. Bravo à toi pour ce projet hors norme, même si tu ne veux pas le considérer comme tel. C'est quand même un projet incroyable et vraiment hors du commun. Et puis voilà, c'est pour toi une formidable source d'accomplissement, de découverte et d'enrichissement qui doit être aussi très inspirante pour nos auditeurs. Je n'en doute pas un seul instant. Merci encore d'avoir pris du temps aussi sur ton jour de repos pour rendre possible l'enregistrement de cet épisode. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de ce défi et les 15 ou 20 000 kilomètres qui t'attendent encore. On verra, l'avenir nous le dira. Sois sûr en tout cas que nous allons suivre avec beaucoup d'attention l'avancée de tes aventures. Je te dis à très bientôt Marie, merci encore pour tout et pour nos échanges, c'était passionnant.
Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie et à bientôt de vous donner des nouvelles.
À très bientôt et pour suivre l'aventure de Marie, tous les liens seront dans la description de cet épisode, donc voilà, n'hésitez pas à l'accompagner au jour le jour, à lui envoyer des messages, à la soutenir de la façon que vous jugez la plus appropriée, en tout cas voilà, c'est un très beau projet à vivre aussi, même à distance, voilà, on n'est pas loin de toi Marie. À très
bientôt. Merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.